Eh bien, une autre année est presque passée. 2025 est presque terminé. Fini. Quand je repense à 2025, il s'est passé beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a eu beaucoup d'événements que je n'avais pas prévus. Il y a un an, je n'avais aucune idée que nous serions réunis ici aujourd'hui, dans cette salle. Mais nous y voilà. Je suppose que des choses se sont produites au cours de l'année écoulée, auxquelles vous ne vous attendiez pas non plus. Peut-être que certaines de ces choses étaient bonnes, peut-être que d'autres étaient décevantes. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici. Vous êtes dans la maison du Seigneur, louant Dieu pour tout ce qu'il a fait. Loué soit Dieu pour cela. Il n'y a rien de magique dans le fait que le calendrier tourne les pages, mais c'est toujours un bon moment pour s'arrêter et réfléchir à ce que Dieu pourrait avoir en réserve pour nous dans la nouvelle année à venir. Que veut Dieu pour vous en l'an 2026? Voilà à quoi je voudrais que nous réfléchissions ce matin. Alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Ézéchiel 37, verset 1.
37, 1. La main du Seigneur fut sur moi, et il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur, et il me déposa au milieu de la vallée. Elle était remplie d'ossements. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Ézéchiel était un prophète de Dieu, alors qu'Israël était en exil à Babylone. Le livre d'Ézéchiel, qui a été écrit entre le 5e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, est rempli de prophéties. Après tout, Ézéchiel était un prophète du Seigneur. Au début du livre, il y a beaucoup de prophéties sur la justice et la sainteté de Dieu. Israël était en exil parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Mais c'est justement autour de cette section du livre que le message d'espérance commence à apparaître. Au chapitre précédent, au chapitre 36, il y a une promesse d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, d'une renaissance spirituelle, que Dieu enlèvera les cœurs de pierre en Israël et leur donnera un cœur de chair. Et ainsi, le chapitre 37 donne une vision de ce à quoi cela ressemblera.
Le verset 1 dit qu'Ézéchiel a été amené dans une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel se trouvait-il réellement dans une vallée pleine d'ossements? Peut-être, mais probablement pas. Il s'agit très certainement d'une vision venant du Seigneur. Mais la scène reste inhabituelle. Je me souviens de la première fois où j'ai lu toute la Bible. J'avais 18 ans. Et il y avait beaucoup de choses dans Ézéchiel que je ne comprenais pas. Donc, je lisais simplement, essayant de finir le livre, quand tout à coup, j'ai lu le verset 1. J'ai dû le relire. Ézéchiel était-il dans une vallée d'ossements? Le Seigneur avait capté mon attention et je devais continuer à lire. 2. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée. Et voici, ils étaient très secs. Ainsi, dans cette vision, Dieu fait faire le tour de la vallée à Ézéchiel. Et il y avait des ossements partout. C'est presque comme s'il y avait eu une bataille, et que les morts avaient été laissés sur le champ de bataille. Au lieu d'être enterrés, les morts avaient simplement été abandonnés dans la vallée pour que les oiseaux viennent les dépouiller.
Et à l'époque, c'était une image de la nation d'Israël.
Ils avaient désobéi à Dieu et s'étaient tournés vers d'autres idoles. Dieu les avait déjà avertis que s'ils faisaient cela, alors leurs ennemis auraient la victoire sur eux et que leurs cadavres serviraient de nourriture aux oiseaux. Mais Israël n'a pas écouté. Et finalement, ils ont été vaincus, d'abord par les Assyriens, puis par les Babyloniens. Les avertissements de Dieu s'étaient réalisés. Lorsqu'Ézéchiel prophétisait, la nation d'Israël était en exil à Babylone, et tout semblait sans espoir, exactement comme cette vallée d'ossements desséchés. C'était une scène déprimante. Des eaux desséchées au milieu d'une vallée. Sans vie. Sans souffle. Sans mouvement. Sans vitalité. Rien. Juste des eaux mortes et desséchées. C'est une vision d'une vie sans Dieu. C'est une vision de ce qui arrive quand on ne nourrit pas son âme. C'est une vision d'une vie séparée de Jésus-Christ. Tel était l'état d'Israël à l'époque. Spirituellement desséché. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Dieu parle à Ézéchiel et lui demande si ces eaux peuvent revivre. Dieu demande à Ézéchiel ce qu'il pense qu'il pourrait se passer.
Maintenant, Ézéchiel n'est pas simplement un croyant ordinaire, c'est un prophète, n'est-ce pas? Tout son ministère consiste à parler au nom du Seigneur. Tout son ministère consiste à parler de ce que Dieu va faire. Comment pourrait-on s'attendre à ce qu'un prophète réponde à cette question? Nous attendons d'un prophète qu'il fasse quoi? Prophétiser. Oui, Seigneur, tu peux le faire. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant. Oui, Seigneur, tu le feras. Nous attendons de la confiance de la part du prophète. Nous attendons de l'assurance de la part du prophète. Nous attendons une prophétie de la part du prophète. Mais qu'est-ce que le prophète répond?
Et j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais.
Dieu demande à Ézéchiel ce qu'il pense, et Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Quel genre de réponse est-ce là de la part d'un prophète? Où est la confiance? Où est le feu? Où est la puissance? Où est la prophétie?
Les paroles qui sont sorties de la bouche d'Ézéchiel étaient sagesse. C'était la vérité. C'était une théologie solide. Ézéchiel n'a pas dit « je sais ». Il a dit « Seigneur, tu le sais ». Il n'y a aucun doute que Dieu peut. Il n'y a aucun doute que Dieu est capable. Il n'y a aucun doute que Dieu a la puissance. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu peut que cela veut dire qu'il le fera toujours. Ou cela veut-il dire qu'il le fera selon notre propre calendrier? Nous ne devons jamais douter du fait que Dieu peut le faire. Nous ne devons jamais douter que Dieu est capable. Nous devons prier en croyant cela. Nous demandons, nous cherchons, nous frappons, nous espérons, croyant que Dieu est capable.
Mais lorsque ce que vous espérez n'arrive pas, ou n'arrive pas selon votre calendrier, ou n'arrive pas de la manière que vous souhaitiez, c'est le moment de dire, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu as un plan. Seigneur, tes voix sont plus élevées que mes voix. Seigneur, je te fais confiance. Souvenez-vous de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils allaient être jetés dans la fournaise, ils ont dit au roi, « Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Dieu est toujours capable. Mais ce n'est pas parce que Dieu peut que cela veut dire qu'il le fera toujours, ou qu'il le fera selon votre calendrier. Ézéchiel ne met pas sa confiance dans sa connaissance ou sa compréhension. Il ne dit pas « je sais ». Il dit « Seigneur, tu le sais ». Il met sa confiance dans le Seigneur. Ne placez pas votre foi dans quelque chose que quelqu'un dit qui arrivera. Depuis 2000 ans, des gens disent que Jésus va sûrement revenir cette année, et la dernière fois que j'ai vérifié, il n'est toujours pas revenu. Ils ne connaissent ni le jour, ni l'heure, mais Dieu le sait.
Ne placez pas votre foi dans quelque chose que quelqu'un dit qui arrivera. Placez votre foi en notre Dieu souverain. Il sait. Il est tout-puissant. Vous pouvez avoir confiance en son plan. Vous pouvez vous reposer dans sa bonté. Il en est capable, mais ce n'est pas parce qu'il le peut qu'il le fera toujours. Ses voix sont plus élevées que nos voix. Puis il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur,
« Ô desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses eaux. Voici, je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai venir sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. » Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. Quelle mission! J'aurais aimé voir le visage d'Ézéchiel lorsqu'il a reçu cette mission de la part de Dieu.
Mais Dieu dit que ses paroles apporteront le souffle et la vie dans les eaux desséchées. Ils deviendront nerfs, ils recevront de la chair et ils vivront.
Revenons à la question de Dieu au verset 3. Ces eaux desséchées peuvent-ils revivre? Par la parole de Dieu, absolument, ils le peuvent. C'est la parole de Dieu qui redonnera vie à ces eaux, et c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Le premier pas pour sortir de la sécheresse spirituelle, c'est d'entendre la parole du Seigneur. En d'autres termes, si vous n'écoutez pas régulièrement la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il y a de fortes chances que vous vous sentiez spirituellement sec. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Romains 10:17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4 utilise aussi ce langage des eaux, n'est-ce pas? Il dit que la parole de Dieu pénètre non seulement notre âme et notre esprit, mais aussi nos jointures et nos moelles. La parole de Dieu donne la vie aux eaux desséchées.
Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, ce n'est pas seulement la nourriture qui nous maintient en vie, mais ce sont les paroles de Dieu qui gardent nos âmes vivantes. Le psalmiste a dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus a aussi dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avec quoi? Sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre Dieu Tout-Puissant s'est révélé à nous, à travers sa parole. Par sa parole, nous pouvons savoir qui est Dieu, sa nature et son caractère. Nous pouvons apprendre ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et nous pouvons apprendre qui nous sommes à travers sa parole. Nous pouvons découvrir notre besoin de lui et ses désirs pour nous.
Alors, vous pourriez entendre tout cela et penser, d'accord, donc chaque chrétien passe beaucoup de temps à lire sa Bible et à écouter la parole de Dieu. Eh bien, je pense que la plupart des chrétiens veulent lire et écouter la parole de Dieu. Je crois vraiment que c'est leur désir. Mais en ce qui concerne la pratique, j'imagine qu'il y en a beaucoup moins qui le font réellement. C'est un peu comme faire de l'exercice et manger sainement. Je pense que la plupart des gens veulent faire ces choses, mais au moment de choisir entre un morceau de gâteau et aller courir, la plupart des gens prennent une fourchette et choisissent le gâteau. Alors pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi avons-nous le désir de passer du temps dans la parole de Dieu? Mais en même temps, nous ne mettons pas toujours cela en pratique. La raison, je pense, c'est qu'il est beaucoup plus facile de ne pas lire la Bible que de la lire. Lire la Bible, ce n'est pas aussi facile que de faire défiler l'Internet. Passer 2 heures sur YouTube, c'est facile. Je peux le faire sans effort. Lire la Bible, ce n'est pas comme ça. Parce que lire la Bible exige quelque chose de vous. Cela exige votre attention. La parole de Dieu remet en question votre manière de penser. Elle remet en question la façon dont vous vivez votre vie. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu est comme une épée tranchante qui pénètre nos cœurs. La parole de Dieu nous touche. Elle nous met au défi et nous aide à grandir. Lire la Bible régulièrement exige de la discipline. C'est de là que vient le mot « disciple ». La discipline consiste, de façon concrète, à prendre les mesures nécessaires pour devenir la personne que vous voulez être. Il y a beaucoup de choses pour nous distraire. Il m'est beaucoup plus facile de prendre mon téléphone que d'aller vers la parole de Dieu.
Mais la discipline selon Dieu consiste à faire ce qui est difficile, au lieu de choisir la facilité, parce que nous connaissons les bienfaits spirituels. Dans notre monde bruyant et occupé, nous devons nous battre pour trouver des moments de calme avec Dieu et sa parole. Il y aura des distractions, il y aura du bruit, mais si nous voulons que des eaux desséchées reprennent vie, nous devons lutter. Nous devons résister. Laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques.
1. Ayez un plan. Si vous n'avez pas de plan pour lire la Bible, cela n'arrivera probablement pas. Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà lu toute la Bible par accident. Alors, faites un plan. Choisissez un moment précis de la journée pour lire la Bible, et ne prévoyez rien d'autre à ce moment-là. Engagez-vous à le faire. Je partagerai un plan sur le groupe WhatsApp de l'Église pour lire tout le Nouveau Testament en 100 jours. Est-ce que vous me rejoindrez? Si vous perdez le rythme, ce n'est pas grave, recommencez. Mais faites un plan et tenez-vous-y. 2. Lisez une Bible papier. Oui, nous avons tous la Bible sur nos téléphones, mais il y a aussi beaucoup de distractions sur nos téléphones. Lisez une Bible papier, celle avec des pages. Laissez que cela soit différent, peut faire défiler votre téléphone. 3. Si vous ne possédez pas de Bible papier, allez au bureau de l'église et prenez-en une gratuitement. Et placez cette Bible à un endroit où vous la verrez. Et laissez-la ouverte. De cette façon, elle sera là, prête pour vous, au lieu d'être enfouie quelque part dans un sac à dos.
2. Écoutez aussi la Bible. Parfois, j'aime marcher et écouter la parole de Dieu pendant que je vais quelque part.
Lisez-la, écoutez-la, peu importe. Il s'agit simplement de la laisser entrer dans votre esprit et dans votre cœur.
3. Laissez la voix de Dieu être la première voix que vous entendez.
Quelle est la première chose que la plupart d'entre nous faisons au réveil? Nous vérifions nos téléphones pour voir si quelqu'un nous a envoyé un message. Nous consultons les dernières nouvelles. Nous regardons qui a gagné le match. Toutes ces choses vont bien, mais elles peuvent attendre. Avant de lire quoi que ce soit d'autre, lisez la parole de Dieu.
1. Je me souviens qu'il y a quelques mois, je me suis réveillé et j'ai découvert que mon joueur préféré de mon équipe favorite avait été échangé. C'était la première chose que j'ai lue ce jour-là. Maintenant, après avoir lu cela,
pensez-vous qu'il était facile de lire la Bible et de se concentrer dessus?
Non. J'étais encore contrarié à propos du transfert.
2. Commencez votre journée avec la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Croyez-moi, ces messages, ces nouvelles, ces scores, ils seront toujours là quand vous aurez terminé.
4. Ne vous contentez pas de l'avaler. Mâchez-la.
La parole de Dieu est comme une nourriture spirituelle pour notre âme. Alors ne la lisez pas simplement pour cocher une case. Ne faites pas que l'avaler. Mâchez-la. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un moyen de réfléchir et de méditer sur ce que vous lisez ce jour-là. Cela peut signifier souligner ou surligner un verset que Dieu semble mettre sur votre cœur ce jour-là. Cela peut être écrire une prière, ou encore écrire et réfléchir à ce que ce verset pourrait signifier pour votre vie. L'essentiel, c'est de ne pas simplement avaler la parole de Dieu, mais de prendre le temps de la mâcher, de la méditer et d'y réfléchir.
Dans Ézéchiel, Dieu dit que ses paroles apporteront souffle et vie aux eaux desséchées. Et c'est la même recette pour nos âmes. Tout commence par écouter le Seigneur.
7. Je prophétisais comme il m'avait été ordonné.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres, chacun vers son os. 8. Je regardais, et voici, il y avait des nerfs sur eux. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ézéchiel obéit au Seigneur. Il prononce les paroles que Dieu lui a ordonnées. Il prophétise sur les eaux desséchées, et en effet, les eaux commencent à se rapprocher. Il y eut un bruit, un frémissement à mesure que les eaux s'assemblaient, chacun à son os. Les nerfs vinrent, la chair et la peau commencèrent à apparaître. Cela se produit, comme Dieu l'avait dit. Mais, comme il est écrit au verset 8, il n'y a pas encore d'esprit.
9. Il me dit,
prophétise à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent.
10. Je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Tout comme précédemment, Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, de parler le souffle dans les corps.
Un auteur dit, en hébreu, le mot « roi » peut signifier « vent »,« souffle », »,« esprit » ou « esprit ». Jésus a utilisé ce mot lorsqu'il a parlé à Nicodème du vent qui souffle et de la nouvelle naissance par l'esprit. De même, lors de la création, Adam était physiquement complet, mais il n'avait pas de vie, jusqu'à ce que le souffle de Dieu entre en lui.
À nouveau, Ézéchiel obéit au Seigneur. Il prophétise et le souffle entre dans leur corps, et le peuple se tient debout et apparaît comme une grande armée.
La première partie de la vision était déprimante, une vallée remplie d'ossements desséchés, sans vie et sans espoir. Mais la deuxième partie de la vision est ce que je souhaite pour ta vie en 2026. Non seulement, ils entendent la parole de Dieu, mais ils sont poussés à agir par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas seulement auditeurs de la parole, mais aussi pratiquants de la parole. Ils ne sont pas allongés. Ils ne sont pas assis, non préparés. Non. Ils se tiennent debout. Ils sont nombreux, et ils sont prêts.
Ils sont vigilants. Leurs yeux sont ouverts. Ils marchent dans l'Esprit de Dieu. Vivants, respirants, debout. Leurs âmes brûlent d'avoir entendu la parole du Seigneur, et ils sont prêts à aller où le Saint-Esprit veut les conduire. Habituellement, à cette période de l'année, nous faisons une liste de toutes les choses que nous voulons accomplir. Je veux faire plus d'exercices. Je veux manger plus sainement. Je veux économiser plus d'argent. Je veux trouver un autre emploi. Je veux passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et toutes ces choses sont bien. Ce sont de bons objectifs. Mais à l'approche de la nouvelle année, permets-moi de te lancer un défi. Au lieu de penser à tout ce que tu veux faire en 2026, je veux te défier de réfléchir à qui tu veux être en 2026. Qui veux-tu devenir dans l'année à venir? Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de grandir? Quelles sont les choses qui te retiennent en ce moment?
Peut-être qu'en pensant à 2025, tu as l'impression d'être dans la vallée des ossements desséchés. Peut-être que l'année dernière a été très sèche spirituellement pour toi, et tu te demandes en quoi l'année prochaine sera-t-elle différente. Peut-être que tu te sens comme au verset 11.
11, alors il me dit, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue. Nous sommes complètement retranchés.
Dieu explique la vision à Ézéchiel. Les eaux représentaient Israël en exil à Babylone. Ils se sentaient sans espoir. Ils se sentaient comme morts. Ils se sentaient retranchés. Mais Dieu ne les laisse pas dans cet état. Dieu ne les laisse pas sans espérance. Dernier verset.
12. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu.
Voici, j'ouvre vos tombeaux. Je vous fais remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël.
13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux,
et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple.
14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai parlé, et je le ferai, déclare le Seigneur. Dieu dit, oh, tu te sens mort, alors je vais te ramener à la vie. Je vais te faire sortir du tombeau. Je vais te ramener dans le pays que je t'ai donné. Je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras. Je l'ai dit, et je le ferai. Même si Israël se sentait séparé de Dieu, il restait son peuple. Même s'ils étaient désobéissants, il continuait de prendre soin d'eux.
Tu pourrais regarder l'année dernière et te dire, eh bien, en quoi cette année sera-t-elle différente?
Tu pourrais regarder l'année dernière et te sentir sans espoir. Tu pourrais regarder ta situation et te demander, Dieu peut-il vraiment faire quelque chose pour te sortir de ce sentiment de sécheresse spirituelle? Et la réponse que nous lisons ici est oui. Dieu en est capable. Dieu peut le faire. Par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu.
Tout est possible en 2026. Il transforme des ossements en armées.
Il change des tombeaux en jardins.
Il donne de la beauté au lieu des cendres.
Avant de connaître Jésus, nous étions comme cette vallée d'ossements desséchés.
Éphésiens 2 utilise le même langage.
Il dit que nous étions morts dans nos fautes.
Spirituellement, nous étions morts. Nous étions sans vie.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus vivants avec Christ.
C'est par grâce que nous sommes sauvés, par la foi.
Et en tant que croyants, nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous guider, nous conduire et nous montrer où aller.
Éphésiens 2 verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas tout ce que tu feras en 2026. Je ne sais pas ce qui se passera pour toi à l'école ou au travail.
Je ne sais pas ce qui arrivera dans ta famille.
Je ne sais pas où tu iras en 2026.
Je ne sais pas ce qui arrivera.
Dieu le sait.
Mais je sais que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi en 2026.
Je sais qu'il veut que tu mettes ta confiance en lui, quoi qu'il arrive, dans ta vie.
Je sais qu'il veut que tu passes du temps avec lui, dans sa parole et dans la prière.
Je sais qu'il veut que tu sois sensible à son esprit.
Je sais qu'il veut que tu marches par la foi et non par la vue.
Comme je l'ai dit plus tôt, les dates sur un calendrier sont arbitraires. Il n'y a rien de magique à propos du 1er janvier.
Les changements que tu peux faire le 1er janvier sont les mêmes que ceux que tu pourrais faire le 28 août.
Les dates n'ont pas d'importance. Ce qui compte, ce sont tes intentions.
Et si tu as besoin que le calendrier affiche le 1er janvier pour y réfléchir, alors c'est très bien.
Je veux simplement te rappeler que le Seigneur est avec toi en 2026.
Le Seigneur est pour toi en 2026.
Il n'est pas contre toi. Il ne t'a pas rejeté.
Chaque épreuve, chaque test, te prépare à ce qui vient ensuite.
Il est bon et il fait le bien.
Il fait concourir toutes choses en ta vie pour le bien.
Alors lève-toi cette année. Tu n'es pas mort. Tu es vivant.
Écoute la parole du Seigneur cette année.
Entends la voix de l'Esprit cette année.
Sois l'homme ou la femme que Dieu désire que tu sois.
Va et accomplis les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi cette année.
Que ces eaux reprennent vie. Amen. Fin du sermon.